Bonjour, Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 17 novembre 1936, Roger Salengro, victime de la calomnie. Mardi 17 novembre 1936, le maire de Lille et ministre de l'Intérieur du Front populaire, Roger Salengro, rejoint vers 20h30 son appartement lillois du 16 boulevard Carnot. Sur la table de la salle à manger l'attend son dîner, préparé par Madame Renard, sa femme de ménage. Il n'y touche pas. Durant la nuit, il pénètre dans sa cuisine et ouvre le robinet du gaz. Le lendemain matin, à 8h, Madame Renard le découvre allongé par terre, inanimé. Elle ouvre la fenêtre, puis elle prévient la mairie. Denis Cordonnier, adjoint au maire et médecin, arrive. Il constate le décès et retrouve dans le portefeuille de Roger Salengro une lettre adressée à son frère. Elle est laconique. Henri, les surmenages, la calomnie, c'est trop cette fois. Le chagrin m'a vaincu. À maman, à toi et aux nôtres, je rejoins Léonie Salengro. Une autre missive est destinée à Léon Blum. Elle est plus longue, mais l'essentiel tient en ces lignes. J'ai lutté de mon côté vaillamment, mais je suis à bout. S'ils n'ont pas réussi à me déshonorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort. Car je ne suis ni un déserteur, ni un traître. Mon parti aura été ma joie et ma vie. Né en 1890, Roger Salengro rejoint la SFIO dès 1909. Militant ardent et virulent, il est inculpé un an plus tard pour incitation à la violence lors de la grève des cheminots. Il bénéficie d'un non-lieu. Toujours en 1910, il est poursuivi pour incitation de militaires à la désobéissance. Il est alors inscrit au carnet B, qui regroupe les noms des suspects à surveiller ou emprisonner en cas de mobilisation. En décembre 1912, il effectue son service militaire à Arras, ce qui ne l'empêche pas de participer en uniforme aux manifestations contre la loi des 3 ans. Il est perçu comme un dangereux anti-militariste. En août 1914, il est incarcéré quelques semaines avant d'être incorporé au 331e régiment d'infanterie. À sa demande, il est envoyé au front. Au printemps 1915, malade, il est évacué. Mais à peine guéri, il demande à repartir au feu. Roger Salengro est capturé par les Allemands le 7 octobre 1915. Ses adversaires politiques affirment qu'il a trahi et déserté. En fait, il est emprisonné en Bavière où il refuse de travailler dans une usine métallurgique qui participe à l'effort de guerre. Son ardeur patriotique entraîne avec lui une quarantaine de détenus. Traduits devant un conseil de guerre, ils sont condamnés en juillet 1916 à 2 ans de camp disciplinaire. L'affaire Salengro débute dès l'automne 1915. Après sa disparition, son capitaine rédige un rapport concluant que, bon soldat, il a été tué ou fait prisonnier. En conséquence, il est porté disparu. Cependant, un mois plus tard, le même officier apprend sa capture. Il écrit un nouveau rapport ainsi libellé. Il semblerait, étant donné le passé du soldat, qu'on se trouve en présence d'une vulgaire désertion à l'ennemi. Une plainte est déposée devant le Conseil de guerre, qui acquitte Roger Salengro en janvier 1916, par 3 voix contre 2. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Roger Salengro reprend ses activités militantes. Il est élu conseiller municipal de Lille, puis conseiller général. Il devient également secrétaire administratif de la Fédération socialiste du Nord. Maire de Lille en 1925, il entre au Palais Bourbon 3 ans plus tard. En juin 1936, il est nommé ministre de l'Intérieur. Pour assurer l'ordre public, il n'hésite pas à s'attaquer aux extrémistes de droite. Le 19 juin, il prend 4 décrets de dissolution d'organisations factieuses. Pour une partie de la droite, il devient le ministre à neutraliser. Le 10 juillet, un député conservateur du Nord, Henri Bécard, écrit à Édouard Daladier, ministre de la Guerre, pour lui demander des explications sur l'attitude du soldat Roger Salingros. Quelques jours plus tard, l'Action française de Charles Maurras affirme que le maire de Lille a été condamné par contumace. Roger Salingros est sur la défensive. Il tente de se justifier au lieu de contre-attaquer. Plus il répond, plus il s'enferre. Bientôt, il se réfugie dans le silence. La presse affirme que des pièces de son dossier militaire ont été détruites. À la demande de Léon Blum, une commission est créée pour clarifier la situation. Présidée par le général Gamelin, elle conclut ses travaux en faveur du ministre de l'Intérieur. Toutefois, la droite nationaliste ne désarme pas. Le 13 novembre, elle porte l'affaire à la tribune de la Chambre des députés. Le débat est tumultueux. Roger Salingros est finalement innocenté. Plus de 70% des députés hostiles au Front populaire lui apportent leur suffrage. Pourtant, la polémique se poursuit. Mais Roger Salingros abandonne le combat. Il est fortement éprouvé par la maladie de sa mère et le décès de son épouse Léonie, survenu le 29 mai 1935. Les obsèques nationales de Roger Salingros se déroulent le 22 novembre 1936. Le gouvernement est présent. Des centaines de parlementaires, des milliers d'élus et des dizaines de milliers de militants avec leurs drapeaux rouges cravatés de crêpes convergent vers Lille. La foule est estimée à 1 million de personnes. Le discours de Léon Blum est relayé dans les principales villes de France. Le président du Conseil fustige une certaine presse qui use de la calomnie. Sans respecter le deuil, l'extrême droite s'acharne. « Salingros a payé », lance Louis Darquier de Pellepoix. Jean-Louis Tixier-Vignancourt estime que Roger Salingros s'est suicidé par crainte de révélations nouvelles. Henri de Kérilis écrit dans l'Écho de Paris « Léon Blum porte l'entière responsabilité. On ne va pas chercher ses ministres sur les bancs des conseils de guerre. » Je vous retrouve dans un instant pour la chronique littéraire « Un jour, 3 livres » préparée par Emmanuel. Mais d'ici là, nous allons marquer une pause musicale avec Jacques Dutronc. Nous écoutons un titre de 1975, « Gentleman cambrioleur ».
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Chaque femme a son heure.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est maintenant venu le temps de la chronique littéraire, un jour trois livres, préparés par Emmanuel. Nous commençons par Jésus, trois jours avant sa mort. C'est signé Gilbert Borde et c'est publié aux éditions XO. Jésus prêchait l'amour de son prochain et surtout des plus humbles et la liberté. Cet être de paix était aussi capable de redoutables colères, telles celles face aux marchands du temple. Il était le descendant de David. Durant les trois jours qui suivirent son entrée dans Jérusalem pour la Pâque, s'est joué son avenir de Jésus et sa condamnation à la croix. Ce sont ces trois jours essentiels pour l'humanité, trois jours où tout ce qui fait à la fois la grandeur des hommes, mais aussi leur bassesse, va se jouer. D'autant plus que la popularité de Jésus dérange, notamment les prêtres du temple, le tétrarque Hérode, et dans une posture plus trouble, le procurateur Ponce Pilate. C'est cette histoire que raconte l'auteur en s'appuyant sur les travaux des historiens. Jésus, trois jours avant sa mort, s'est signé Gilbert Borde et s'est publié aux éditions XO. L'étoile de la Providence d'Alain Delage aux éditions Deboré dans la collection Terre d'écriture. En 1972, Florian, retraité de l'aéronautique, se rend avec sa compagne au palais de l'Élysée afin d'y être décoré de la Légion d'honneur. En 1910, il vit en Algérie auprès d'un père militaire et de sa mère qui décède subitement. Il a 12 ans. Le jeune garçon, abandonné par son père, est envoyé dans une école militaire du Gard contre son gré. Là-bas, de rencontres providentielles en expérience formatrice, il prendra en main sa destinée. À travers lui, ce sont la vie des aviateurs en ce début du XXe siècle qui est retracée dans ce roman et entre autres celle de Louis Blériot. L'étoile de la Providence d'Alain Delage s'est publiée dans la collection Terre d'écriture aux éditions Deboré. Nous terminons cette chronique avec le premier volume de 1800 « La main de sang » de Tristan Mathieu aux éditions des Presses de la Cité. Voici une enquête criminelle dans le Paris de 1800 qui débute par la rumeur de la mort de Bonaparte à Marengo. Rumeur particulièrement favorable aux intrigues des puissants, Talleyrand et Fouché. Cette affaire se déroule pendant trois jours du mois de juin 1800, durant lesquels Paris est resté sans nouvelles de Bonaparte en pleine bataille incertaine de Marengo. Trois jours propices à toutes les rumeurs, à tous les complots qui voient les puissants à coups de manœuvres et de manipulations tenter de s'accrocher au pouvoir. Joséphine, qui risque de le perdre, Lucien, le frère de Bonaparte, qui se prépare à le prendre, et les deux ennemis irréductibles, Talleyrand et Fouché, qui veulent le conserver. Les deux héros, Julie et Armand, réchappés de la tourmente révolutionnaire, vont s'unir et s'affronter pour résoudre le mystère d'assassinat barbare, alors que Paris est une poudrière. Au-dessus de la mêlée, deux grands fauves, Talleyrand et Fouché, tirent les ficelles via Julie et Armand et vont s'allier pour mieux se combattre. Ce roman policier est surtout un tableau des mœurs politiques sous le Consulat, écrit par un jeune chercheur spécialiste de la Révolution française. 1800, La main de sang, c'est le premier tome, c'est signé Tristan Mathieu aux éditions des Presses de la Cité. Ainsi s'achève cette chronique littéraire. Nous nous séparons en chanson avec toujours Jacques Dutronc. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès. C'était en 1968, peu avant les événements. Il est 5 heures, Paris s'éveille. J'aurai grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Oh,